et on se les pose notamment avec vous, Thierry Coville. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. Vous êtes notre invité pour cette deuxième partie d'édition spéciale. On va d'abord partir à Jérusalem, alors qu'hier soir, Israël a donc été frappé par l'Iran en riposte aux attaques de l'État hébreu depuis la nuit de jeudi à vendredi. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
En direct avec nous de Jérusalem, où on a assisté, comme dans tout le pays, à une nuit d'échange de tirs quasi continue.
Oui, une nuit agitée, pourrait-on dire. Des millions d'Israéliens ont passé une partie de cette nuit dans les abris. En tout, 6 salves de missiles iraniens et au moins l'une d'entre elles n'a pas été précédée d'une alerte. À ce stade, 3 morts, des dizaines de blessés et d'importants dégâts parmi la population civile. L'armée israélienne affirme que la grande majorité des missiles a été interceptée. Ce matin, il y a 30 minutes environ, une alerte aux drones dans la région de la Mer Morte. Alors, la principale cible la nuit dernière, ça a été la métropole israélienne, Tel Aviv, mais c'est dans 2 de ces banlieues que l'impact des missiles a été le plus meurtrier, à Ramat Gan et à Rishon LeZion. Le cabinet de sécurité examine une riposte israélienne à la riposte iranienne. Le ministre de la Défense, Katz, déclare que l'Iran a franchi des lignes rouges en frappant des cibles civiles et il promet que le régime iranien paiera un prix lourd. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien de son côté, estime qu'Israël a mis en place contre l'Iran une des plus grandes opérations militaires de l'histoire. L'heure est venue pour les Iraniens de se révolter contre le régime, un régime que Netanyahou qualifie de maléfique et d'oppressif. L'armée israélienne affirme encore ce matin avoir frappé dans la région de Téhéran des batteries de missiles solaires. Ce sont des cibles d'importance stratégique selon Israël.
Merci Michel Paul. À Jérusalem, on continue de suivre la situation sur place avec vous. Alors que les frappes israéliennes, vous le disiez, ont continué cette nuit sur le territoire iranien. Thierry Coville, après ces tirs de missiles sur Israël par l'Iran, un cap est-il franchi ou ces frappes, leur nature, leur ampleur, était-elle prévisible?
Ah ben le cap, il a été franchi par Israël. Enfin, excusez-moi, mais un observateur impartial note qu'un pays, Israël, a attaqué l'Iran. Alors, on nous parle d'attaque préventive. Mmh. Notre président, Emmanuel Macron, voit écoutez, là je ne sais pas ce quoi dire, le droit de l'Israël à se défendre. Ils ont attaqué un autre pays. Donc, c'est complètement contraire au droit international. Donc, le gros problème, il est là, je pense. Excusez-moi.
C'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas forcément évoqué, mais celui de la légalité de ces frappes qui ont fait au moins 78 morts et 320 blessés côté iranien. On va reparler d'ailleurs du soutien des Occidentaux. Mais on voit donc que l'Iran a commencé sa riposte tout en étant très affaibli depuis le 7 octobre 2023, tout comme ses alliés. Quelle est la capacité réelle de l'Iran aujourd'hui à aller plus loin dans sa réponse?
Ah ben il y a quand même une réponse. C'est vrai que l'Iran est affaibli dans la région, hein, donc ses alliés régionaux sont affaiblis, mais enfin il y a encore des mini-chiites actives en Irak et les Houthis qui vont continuer à se battre contre Israël. Et effectivement, la faiblesse de l'Iran, on le voit, hein, mais c'est pas nouveau. C'est des avions qui datent de Mathusalem, hein, parce qu'ils peuvent pas acheter des avions aux Occidentaux. Et puis c'est un système de défense antiaérien, bon, qui est basé sur des radars russes, mais manifestement qui ne répond pas, qui n'est pas capable de s'opposer aux attaques aériennes israéliennes. Alors, ça c'est la grande faiblesse. La force, c'est le programme balistique iranien, donc qui existe, qui est quand même compte tenu pour un pays sanctionné quand même depuis 40 ans, ils ont vraiment construit ce programme pas à pas. Et donc effectivement, on le voit bien, hein, à mon avis, la réponse de l'Iran, elle est basée sur ses missiles et également sur ses drones. Hein, ils sont quand même arrivés. Alors c'est pas des drones hyper sophistiqués, mais on a vu la Russie leur a quand même acheté des drones, donc ils arrivent aussi à construire des drones.
Une force balistique, alors qu'Israël a, semble-t-il, touché des sites de missiles, des entrepôts de missiles dans ces frappes d'hier. Elles ont aussi, ces frappes, décapité une partie du commandement militaire et des gardiens de la Révolution. Quels effets ça peut avoir aujourd'hui?
Oui, alors c'est sûr que c'est un choc, hein, parce que c'est quand même imaginez qu'en France le responsable des armées est assassiné par une attaque soudaine. Je pense qu'on serait quand même relativement surpris et inquiet. Et en plus, le chef des Pasdaran a été tué, et également des scientifiques iraniens. Donc, quand j'entends quand même Israël qui dit que l'Iran a franchi la cape en s'attaquant aux civils, il y a quand même des scientifiques iraniens, des professeurs d'université et leurs familles, hein, leurs femmes et leurs enfants, qui ont été tués, assassinés par Israël. Donc, vous avez raison, là, il y a une volonté d'Israël de décapiter, entre guillemets, hein, j'ai entendu cette expression hier, pas très élégante, mais enfin, décapiter le pouvoir iranien. Mais bon, tous les experts vous diront que dans ces cas-là, les chefs militaires, ils sont remplaçables. L'Iran, c'est un pays de 90 millions. Puis alors, surtout, il y a quelque chose qu'il faudrait que les gens comprennent bien. Le problème nucléaire iranien, c'est une expertise hein, qui a été acquise. Il y a des centaines de chercheurs en Iran. Donc, ils peuvent aller à la limite. C'est là où je vois aussi un problème. Israël peut continuer à essayer de détruire les sites d'enrichissement d'uranium de l'Iran. Mais cette expertise, elle va rester. Donc, vous imaginez l'Iran après, je pense qu'il y en a un certain nombre de gens en Iran, hein, que je connais un petit peu, qu'on va avoir forcément très très envie de se diriger vers la bombe atomique.
On voit une grille de lecture se dessiner comme elle s'était dessinée déjà d'ailleurs au moment des échanges de tirs de l'année dernière, sur une balance décisionnelle pour Téhéran aujourd'hui entre la nécessité de montrer sa force et le risque de s'exposer à des frappes encore plus dévastatrices. Elle est encore opérante ce matin, cette ligne, alors que vous nous dites qu'un cap a été franchi par Israël?
Ah oui, ben, si vous voulez, l'Iran n'est pas différent d'un autre pays. Donc, le ministre des Affaires étrangères iranien, Al-Orchi, a dit, c'est une déclaration de guerre. Voilà, bon, tout est dit. Donc, imaginez que la France est attaquée tout d'un coup, nos sites nucléaires attaqués, nos chefs militaires attaqués. Oui, l'Iran se considère qu'ils sont en situation de guerre. Bon, dans ce cas-là, ils répondent. Je pense qu'il y a donc pas, faut arrêter de faire de l'Iran un pays spécial. N'importe quel pays, enfin, excusez-moi, un autre pays, dans la même situation, je pense, réagirait de manière similaire.
On va continuer de parler de l'Iran, des retombées régionales et internationales aussi, mais j'aimerais qu'on évoque Israël avec vous, Guilhem Deltey. Rebonjour, vous êtes journaliste au service international de RFI, ancien correspondant à Jérusalem. Quels sont les objectifs affichés par Israël depuis la nuit dernière?
Alors, celui évoqué par Benjamin Netanyahou, c'est l'élimination du programme nucléaire iranien. Ce n'est pas une grande surprise, cela fait partie des chevaux de bataille depuis des années de Benjamin Netanyahou. Ce sont bien un certain nombre de sites nucléaires en Iran qui ont été touchés à Ispahan, près de Téhéran également. Faut garder en tête également que l'autre cible annoncée par Benjamin Netanyahou, c'est l'arsenal de missiles balistiques. C'est un programme, c'est une cible dont on parle un peu moins, c'est une inquiétude qui est peut-être un peu moins souvent évoquée quand on parle des relations entre Israël et l'Iran. Pourtant, depuis des années, là aussi, Benjamin Netanyahou met en garde contre ce programme. On voit bien que ces missiles ont la capacité d'atteindre le territoire israélien. Et évidemment, la plus grande crainte, le scénario catastrophe pour Israël, c'est que ces missiles soient équipés à terme d'une tête nucléaire.
Et au moment où Benjamin Netanyahou est de plus en plus sous pression d'une partie de son opinion publique sur la bande de Gaza, est-ce que cette offensive sur l'Iran fait débat aujourd'hui dans la société israélienne?
Alors, pas vraiment. L'Iran est dépeint comme le grand ennemi d'Israël depuis très longtemps. Le danger que représente la République islamique pour l'existence, la survie d'Israël ne fait pas débat dans le pays. On n'a pas entendu de grandes déclarations sur ce sujet hier, notamment dans la classe politique. Il n'y a pas eu de condamnation de ces frappes israéliennes, non, c'est pas Netanyahou.
Et Benjamin Netanyahou a prévenu dès hier matin que les frappes de la nuit de jeudi à vendredi n'étaient que la première phase de l'opération. Il y en aura d'autres, a-t-il répété cette nuit. À quoi pourrait ressembler la suite de cette attaque israélienne sur le sol iranien?
Alors, certainement plus de cibles militaires, de cibles nucléaires, des cibles qui pourraient aussi avoir un double usage. Probablement un des aéroports de Téhéran aurait été touché dans la nuit. Un aéroport qui est décrit comme étant plutôt un aéroport spécialisé dans les vols internes et des vols civils. Est-ce que ça pourrait... Ce sont néanmoins des infrastructures qui peuvent être utilisées aussi militairement, évidemment. Donc ça, c'est une suite assez logique. logique. Maintenant, est-ce que dans la suite logique aussi, il y a toujours un certain nombre d'éliminations de responsables, de cadres du régime, de ces forces armées. Ça a commencé hier, on l'évoquait avec Thierry Coville déjà, avec le chef d'état-major, un certain nombre de responsables aussi des gardiens de la Révolution et d'ingénieurs. Est-ce qu'il y a plus de personnalités qui pourraient être visées? On sait que les services de renseignement israéliens sont très efficaces, ils l'ont démontré à de nombreuses reprises par le passé, au cours des années, au cours des mois précédents, depuis le 7 octobre 2023. Et puis enfin, la dernière éventualité, ça serait éventuellement la possibilité de s'en prendre à d'autres cibles assez stratégiques pour le pays, mais qui seraient, elles, pour le coup, civiles. On pense notamment aux installations gazières et pétrolières. Là, ce serait une véritable escalade de la part d'Israël, puisque ce sont, pour le coup, des cibles civiles et qu'on ne sait pas quelle réaction cela pourrait engendrer de la part de l'Iran, et peut-être qu'on irait vers une régionalisation de la guerre.
Et on voit dans ce contexte des réactions occidentales, merci Guilhem Deltey, qui détonnent par rapport aux déclarations de ces dernières semaines sur la bande de Gaza et la question palestinienne. On l'a vu notamment avec cette déclaration d'Emmanuel Macron hier soir.
Nous soutenons la sécurité d'Israël, et donc si Israël devait être attaqué dans le cadre d'une représaille par l'Iran, la France, compte tenu de ses emprises, et si elle était en situation de le faire, participerait aux opérations de protection et de défense d'Israël. Et j'ai marqué notre disponibilité en ce sens. À l'inverse, je n'envisage aucunement de participer à quelque opération offensive que ce soit. Ça n'est pas notre rôle et ça n'est pas le chemin que nous choisissons, je l'ai déjà dit. Nous sommes pour un chemin diplomatique sur la question du nucléaire et du balistique iranien.
Le président français hier soir, Thierry Coville, on peut dire que l'Iran et la question du nucléaire iranien recréent une solidarité occidentale inattendu peut-être autour d'Israël?
C'est pas vrai. Écoutez, je suis très très mal à l'aise personnellement par suite à ces déclarations d'Emmanuel Macron. Même le secrétaire général de l'OTAN, vous pouvez vérifier, je crois qu'il a parlé d'une action unilatérale d'Israël. Donc nous, on n'est même pas capable de dire ça. Enfin, je le répète quand même. Excusez-moi, vous demandez à des juristes, etc. Mais Israël n'a pas signé le traité de non-prolifération. Possède 200, au moins 200 ogives nucléaires. Se permet d'attaquer un pays. Alors, effectivement, le programme nucléaire iranien a progressé, mais tous les services secrets du monde vous diront que l'Iran n'a pas encore la bombe atomique. Et s'ils sont dans cette situation-là, c'est en grande partie à cause de la sortie de Trump de l'accord sur le nucléaire iranien en mai 2018, que la France notamment et l'Europe n'ont pas été capables de défendre. Si vous voulez, c'est bien beau de faire des grandes déclarations aujourd'hui, mais si c'était si important, pourquoi l'Europe n'est pas montée un peu plus au créneau face à Trump quand il est sorti de l'accord en mai 2018? Donc, excusez-moi, mais cette solidarité occidentale, mais il faut arrêter, c'est deux poids, deux mesures. Parce que là, c'est un peu le cliché, mais là, c'est vraiment le cas. Un autre pays a attaqué un autre en dehors de toute l'égalité internationale, point à la ligne.
Pour parler de Donald Trump que vous commenciez à évoquer, Washington tentait visiblement ces derniers mois, c'était nos informations, de dissuader Israël de frapper l'Iran pour ne pas menacer les discussions sur le nucléaire. Hier, le président américain a dit qu'il avait été informé des frappes israéliennes sur l'Iran en amont, mais que les États-Unis n'étaient pas impliqués. On voit cette tentative de prise de distance, notamment pour ne pas mettre en danger les intérêts américains dans la région. L'Iran dit de son côté que Washington a forcément donné son accord. Qui faut-il croire?
Oui, alors si vous voulez, c'est moi je ne vais pas en faire trop, mais c'est un autre élément qui rend la décision israélienne un peu critiquable. Donc, les États-Unis et l'Iran ont engagé des négociations pour régler cette question du nucléaire iranien de manière pacifique. Il y a eu 5 tours de négociations. Et on attendait normalement un 6e tour de négociations. Je pense que l'Iran ne va pas venir, c'est un peu logique, qui avait lieu dimanche qui arrive. Donc, quand, de nouveau, notre président dit qu'il est favorable à une solution diplomatique, je veux dire, je pense qu'un des objectifs assez clairs de Netanyahou par cette attaque, c'est de saboter ces négociations. Donc, alors, je pense que, alors moi, je suis pas au courant des secrets de la politique américaine. Je pense que forcément Trump était au courant, mais je veux dire, comment Trump il dit lui-même, ah oui, j'attends les Iraniens dimanche prochain, mais vous rigolez quelque part, on a envie de vous rigoler ou quoi.
Et Donc,
très
Trump,
clairement, son plan de négociation, il tombe à l'eau, et c'est exactement l'objectif de Netanyahou.
Mais il semble d'ailleurs avoir choisi d'en faire une opportunité, puisqu'il appelle maintenant, il exhorte l'Iran à conclure un accord et avertit que les prochaines attaques israéliennes seront encore plus brutales. Il y a enfin la question omniprésente du danger d'un embrasement régional. On voit notamment depuis hier l'inquiétude des pays qui abritent des bases américaines dans la région, l'Irak, la Jordanie, les monarchies du Golfe. Peut-on imaginer l'Iran les frapper comme il a menacé de le faire? Est-ce que la bascule régionale qu'on craint depuis un an et demi se trouve là?
Non, mais je ne comprends pas pourquoi cette question revient souvent, parce que Les faits montrent que, si vous voulez, l'Arabie Saoudite a repris ses relations diplomatiques avec l'Iran depuis 2023. Mmh. Il y a une visite du ministre de la Défense saoudien en Iran il y a quelques mois. Donc, et je pense que l'Arabie Saoudite, les Émirats, et vérifier même l'Égypte, ont critiqué au moins eux, quoi, l'attaque israélienne. Donc, l'Iran va pas, si vous voulez, ils ont déjà assez à faire avec Israël. Ils vont pas aller attaquer des pays qui les soutiennent, on va dire, diplomatiquement.
Mais pour vous, cela montre que l'Iran ne va pas frapper ces pays, mais certains analystes voient aussi dans les rapprochements diplomatiques des pays du Golfe avec l'Iran une manière de se prémunir contre l'éventualité de ces frappes. On ne voit pas là finalement que ces pays prennent au sérieux la menace iranienne en se rapprochant diplomatiquement de Téhéran depuis 2023 et même avant.
Oui, c'est vrai. Si vous voulez, je pense qu'il y a un élément intéressant, c'est que lors des négociations précédentes, hein, au début des années 2010 sur le nucléaire iranien, l'Arabie Saoudite était complètement contre et a fait du lobbying auprès de Trump pour qu'il sorte de ce fameux accord dont on parlait. Il y a eu ces attaques, vous savez, bon, qui venaient des outils contre les installations pétrolières saoudiennes. Bon, très clairement, c'était téléguidé par l'Iran. Et l'Arabie Saoudite, comme Trump n'a rien fait face à ces attaques, l'Arabie Saoudite a réalisé que s'il y avait un conflit, il serait en première ligne. Et donc, il y a des reprises. Ils ont décidé que c'était mieux de régler leurs problèmes diplomatiquement avec l'Iran. Donc ça, c'est la grande différence, hein, par rapport à la période précédente, c'est que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ont repris des relations normales avec l'Iran et debout contre cette attaque israélienne.
Merci Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran, invité de RFI Matin. Très bonne journée à vous. Merci.